Roumanie, qui a à peu près 16-17 millions d'habitants. C'est une très très grande mégapole et qui en fait continue à s'étendre à cause de gens qui viennent de la province, c'est-à-dire des gens qui étaient des fois des paysans, des pêcheurs, enfin qui ont du mal à vivre dans la province et qui viennent dans les grandes villes. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une maison correcte ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un terrain et donc voilà, qui s'installent dans des zones libres. Parfois c'est des zones qui sont très petites, parfois c'est des zones qui sont très grandes. Il peut y avoir des zones qu'on appelle aussi des squatteurs aériens qui peuvent faire 100-200 000 habitants. Pour vous donner un petit exemple, il y a 30 ans, l'endroit où j'habite, c'était un endroit qui était des terrains où il y avait des plantations de bananes, des plantations de riz, ou bien rien du tout, enfin un terrain un peu abandonné. Puis les gens, comme l'espace était libre, personne ne leur disait rien, ils viennent, ils s'installent là, et puis petit à petit, ben, ça grandit. Très petit fils de la charité, on est arrivé il y a une vingtaine d'années dans cet endroit. Et là, il y avait déjà quand même peut-être 10-15 000 habitants. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 30 000, mais il ne peut pas en avoir tellement plus parce que c'est plein, quoi. C'est très, très serré. C'est vraiment, les maisons sont collées les unes aux autres. C'est des espaces très petits. Il n'y a pas tellement de rues qui sont tracées parce que c'est un endroit un peu abandonné. Il n'y a pas de plan d'occupation des sols.
Est-ce que la propriété est quelque chose pour eux de prioritaire ou est-ce qu'on est quand même dans une logique de survie quand on vit en bidonville ?
Au départ, c'est une logique de survie, hein, parce que en fait, les familles qui arrivent ici sont des familles qui viennent de province et qui n'ont pas de qualification. Quand c'est une première génération d'implantation, hein, de squattage, des familles qui étaient des pêcheurs, qui étaient des paysans, ils n'ont pas de possibilité d'avoir accès à un travail qui soit bien payé. Donc ils continuent à travailler comme chauffeurs de taxi, ou chauffeurs de jeepney, ou chauffeurs de tricycle, ou bien travaillant dans la construction, faisant des petits boulots, et parfois même des travaux qui ne sont pas réguliers. Hein. C'est difficile parce que quand les familles, en général, quand ils ont des enfants qui commencent à grandir, l'éducation coûte cher. L'éducation, la santé, l'aménagement des maisons coûte cher, et les salaires sont très très faibles, ce qui fait que pendant très longtemps, la pauvreté demeure. Quand il y a une stabilité qui se fait, par exemple, il y a des enfants qui ont pu avoir une formation et puis qui peuvent avoir un travail et qui aident aussi à leur famille, on s'aperçoit qu'il y a un mieux-être de la famille.
Vous vivez avec ces personnes. Je voulais vous demander, voilà, Qu'est-ce que c'était le quotidien, justement, dans un bidonville? On imagine la promiscuité et en même temps une grande solidarité.
Oui, tout à fait. C'est un quotidien de vie qui est à la fois agréable et en même temps difficile, hein. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et les familles ont des espaces qui sont un peu réduits. En général, les maisons font 15, 20, 30 mètres carrés maximum. Trop de monde au même endroit, quoi. Hein? Ce qui fait que parfois, ça crée des heurts entre les familles, ça peut arriver, quoi. Hein? Mais en général, la population philippine est une population très conviviale. Ce sont des gens qui sont très gentils, donc ils s'adaptent beaucoup sur des situations qui ne sont pas confortables. Et puis bon, c'est tout le monde est un peu pas dans le même cas, donc en fait, les gens s'accommodent. Voilà, donc en fait, depuis une vingtaine d'années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont peu à peu évolué. D'un quartier complètement abandonné, au début, il n'y avait pas du tout de rue, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone. Puis peu à peu, bon, les gens s'organisent et essayer d'avoir les facilités qui sont au moins les minimums pour que la vie soit possible. Je suis arrivé ici il y a 12 ans et à ce moment-là, il n'y avait pas de ramassage d'ordures. On a fait de nombreuses fois des démarches auprès du barangay, c'est l'autorité locale, pour qu'il puisse y avoir des ramassages d'ordures, non pas une fois de temps en temps, mais réguliers. Et bon, maintenant, on a deux fois, trois fois par semaine, un camion qui ramasse les ordures, ce qui est quand même très très important parce que sinon, c'est la porte ouverte à beaucoup de maladies, il y a beaucoup de rats dans notre quartier, c'est vraiment un minimum.
Dans une logique où on est en communauté, en train de chercher à vivre mieux ensemble, et qu'on peut, parce qu'on est pauvre, se faire expulser du jour au lendemain, j'imagine que ça aussi...
Ça, c'est une réalité, oui.
Comment est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées?
Il y a différents types de cas de figure qui se posent. Par exemple, si des gens occupent un terrain qui doit devenir une route ou bien qui doit être réquisitionné par la municipalité pour un intérêt général, à ce moment-là, on ne peut pas s'opposer à une expulsion. Mais on essaie de faire en sorte que les gens soient reconnus dans leur droit à avoir un logement, c'est-à-dire qu'il y ait au moins pour ces familles-là une possibilité de relogement dans un autre endroit. Il y a aussi d'autres cas de figure, comme par exemple des routes transversales, hein, qu'il faut aussi faire, parce que les situations des squatteries sont dangereuses, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de route qui permette un accès facile pour, par exemple, les pompiers en cas de feu, eh bien, c'est toute la zone qui brûle. Et c'est très fréquent, des fois, un feu qui fait que il y a 1 000, 2 000 familles qui sont touchées, parfois, dans des cas comme ça. Et donc, en fait, il est très nécessaire d'avoir une organisation du terrain qui permette de réduire les dommages quand il y a des choses comme ça. Donc, voilà, c'est une des choses. Alors, il y a des projets de l'État qui permettent aux gens d'accéder à la propriété. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que les gens puissent s'organiser par association reconnue officiellement, avec des statuts qui soient déposés, avec des responsables. Et cette association doit faire des recherches auprès des autorités qui s'occupent de l'organisation des terrains pour savoir si le terrain qu'ils occupent a effectivement un propriétaire ou non. S'il y a un propriétaire, à ce moment-là, il est très important que l'association cherche à rencontrer ce propriétaire pour essayer de faire une transaction avec lui. Et dans ce cas-là, il y a deux types de programmes, soit un achat direct par les gens qui habitent là, qui font un accord avec le propriétaire, par exemple, pour un paiement sur 4 ans, 5 ans, avec parfois l'aide de banques qui peuvent avancer l'argent au propriétaire, soit parfois un programme de l'État qui permet aux gens d'avoir un remboursement sur 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire que l'État avance l'argent au propriétaire, les bénéficiaires remboursent l'État sur 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une somme qui est assez modeste et qu'en général, ils peuvent payer chaque mois.
Est-ce que l'accès à la propriété permet d'enrayer la pauvreté, puisque précisément il y a cet argent à payer à l'État ou aux propriétaires?
Quand c'est des sommes qui ne sont pas trop importantes, les familles peuvent s'organiser pour les payer. Si c'est par exemple un paiement de l'ordre de 500 pesos par mois, ça fait à peu près une journée et demie ou deux jours de travail, c'est possible pour une famille. Si c'est des sommes trop importantes, qui vont par exemple 2 ou 3 000 pesos par mois, beaucoup de familles ne pourront pas. Et à ce moment-là, risque de partir dans un autre endroit pour devenir squatteur dans un autre endroit.
Et donc, votre travail, c'est d'accompagner ces gens. Est-ce que vous-même, vous squattez?
Est-ce que nous-mêmes, on squatte? Bien sûr, nous-mêmes, on squatte. C'est-à-dire que sur le quartier où j'habite, nous avons 5 chapelles, dont une est devenue une chapelle principale, puisque maintenant, c'est l'église du quartier. Depuis 4 ans, ce quartier de 30 000 habitants est devenu une paroisse qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et donc, sur nos 5 chapelles, il y en a 4 qui sont encore des squatteurs. On a quand même construit la chapelle, sinon on ne fait rien, quoi. La maison où j'habite est une maison qui était aussi au départ des squatteurs. Et petit à petit, donc, il y a eu un processus qui s'est mis en place avec le programme de l'État. Donc voilà, on est squatteur sans l'être. C'est-à-dire que petit à petit, beaucoup de gens deviennent propriétaires. Et alors, ça change énormément de choses, parce que ça change la physionomie du quartier. Vous savez, quand on est dans un quartier où on risque de se faire expulser, les gens ne vont pas apporter d'amélioration à leur maison. Ça reste une maison le plus simple possible, parfois en dur, parfois en planche. Mais par contre, si le jour ils ont la certitude qu'ils vont rester là, à ce moment-là, ils peuvent aménager leur maison dès qu'ils ont un peu de moyens. Et peu à peu aussi, on s'aperçoit que c'est une vie locale qui grandit peu à peu. Par exemple, maintenant, il y a 2 rues qui ont été cimentées, qui traversent notre quartier. Le quartier s'organise.